Chéri, 30 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal. Envoie l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre Dame est très sainte.
Priez-vous.
Je vous ai dit qu'on consacrerait ces quelques derniers cours à la notion du beau. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente au point de vue proprement philosophique. Comparativement, de fait, à ce qu'on appelle les transcendentaux, est-ce que le beau fait partie des transcendentaux ? Alors là, on a des positions philosophiques qui sont très nettes, celles de Maritain, entre autres, puis un Louvain, il y a aussi tout un courant. Et c'était le père Garrigou, je crois, qui a commencé par dire ça. Le père Garrigou a dit que le beau était la synthèse des transcendentaux. Je crois que c'était Maritain qui l'avait inventé, puis j'ai vu que c'était dans le père Garrigou. C'était très curieux. Je me suis dit, Père Garrigou, ce jour-là, avait dû oublier un peu ce que c'était que les transcendentaux. Parce que la synthèse des transcendentaux, c'est pas très commode à faire. On ne fait pas de synthèse des transcendentaux. Les transcendentaux, reducuntur ad rationem entis. Reducuntur, ils se ramènent. Reducuntur, c'est très difficile à traduire. Il s'identifie, il se ramène à la raison d'être. Alors, c'est pas commode. Alors, prenez toujours devant vous, ayez toujours devant vous, les transcendentaux comme saint Thomas les donne. C'est une notion importante au point de vue philosophique, dont vous avez une presse. Reducuntur, ils se ramènent tous à la ratio entis. C'est très difficile à traduire. Vous voyez, res, alors il faut bien voir, hein, parce que c'est une petite synthèse que saint Thomas fait. Si vous regardez Albert le Grand, le maître de saint Thomas, Albert le Grand dit que res et uno relève des philosophes. Uno et vero relève des saints. Et aliquid, Albert le Grand n'en parle pas. Saint Thomas ajoute aliquid. Il l'ajoute de cette manière-là. Aliquid, encore une fois, difficile à préciser, saint Thomas dit quelque chose qui en soi est un et divisé des autres. Aliquid, c'est celui qui a son unité qui est séparé des autres. Ou non, c'est celui qui est indivisé, celui qui n'est pas divisé. Res, c'est la réalité dans sa détermination. Ça, c'est Avicenne. C'est Avicenne. Res, Avicenne, la détermination. La réalité déterminée. Et même pour Avicenne, c'est l'essence. «
Aristote, lui, avait dit que unum et verum s'identifient sans parallèle à l'être. De grands passages dans la métaphysique. Aristote parle du beau. Il dit que c'est le propre des mathématiques. Les mathématiciens regardent le beau parce qu'ils regardent l'harmonie. Alors, s'ils regardent l'harmonie, et que le beau, c'est l'harmonie, la proportion, donc c'est le domaine des mathématiques. Mais il ne dit jamais, il ne met jamais le parallélisme entre l'être et le beau. Alors, Maritain dit synthèse et transcendantaux, à la suite du père Carigou-Lagrange, synthèse et transcendantaux. Et Maritain essaie de justifier que le beau, pour le gros, que le beau est un des transcendantaux, en disant que le beau regarde l'homme tout entier. Tandis que bonum verum, verum regarde l'intelligence, verum, bonum regarde la volonté, alors on n'a qu'à ajouter beaucoup. Beaucoup regarde l'homme dans tout ce qu'il est. C'est comme ça qu'il essaie d'introduire Poulcro. C'est très intéressant au point de vue problème. Il y a un problème très, très difficile, intéressant. D'abord, il faut savoir exactement ce que c'est que les transcendantaux. Ce que, ordinairement, on ne regarde pas beaucoup. Les transcendantaux, je crois, tels que saint Thomas de Méda, ce sont des rationnels. Très difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la ratio rei, la ratio unum, la ratio aliquid, veri, boni. Qu'est-ce que c'est que ces rationes? Ces rationes, je crois, c'est ce que notre intelligence conçoit de la réalité dans sa détermination fondamentale. C'est ce que la réalité saisit en tant qu'elle est indivisée. C'est ce que nous saisissons de la réalité en tant qu'elle est indivisée, en tant qu'il y a en elle une indivisibilité. C'est ce que la réalité implique en tant qu'elle est une et séparée des autres, et ainsi de suite. Donc ce sont les modalités les plus profondes de la réalité, de l'être. Ce que l'intelligence conçoit. C'est ça les rationnels. Les rationnels impliquent un fondement objectif de nos différents concepts. Et saint Thomas dit que ces rationnels, reducunto, donc se ramènent à la raison d'être et sont convertibles avec la raison d'être. Donc il y a un problème philosophique important. Parce que ça a beaucoup de conséquences. Hein. Ce n'est pas du tout un problème secondaire. Ça a beaucoup de conséquences. Si on met le beau parmi les transcendantaux, ou si on met le beau comme étant quelque chose qui n'est pas un transcendantal. Alors, si nous voulons chercher ce que c'est que le beau, première chose, on va aller très vite là-dessus, mais ce serait très intéressant, voir comment les artistes parlent du beau. C'est leur matière. Hein. Vous demandez aux moralistes de parler du bien et de la vertu, et vous demandez aux artistes de parler du beau. Alors, de fait, toute une série d'artistes, ce serait intéressant à noter, identifient le beau et le bon. Claudel n'hésite pas de dire « Le bien seul est beau parce que le bien seul est créateur. » Pour Claudel, il y a identification entre le beau et le bien. J'espère que vous n'êtes pas claudélien là-dessus. Ce serait magnifique hein, si tout ce qui était beau était bon. Et ce serait magnifique si tout ce qui est bon est beau. Parce que ça n'arrive pas toujours. Hein. Il y a quelquefois de très bonnes poires qui sont très laides. Et il y a des poires magnifiques qui ne sont pas bonnes du tout.
surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on a des fruits magnifiques, des apparences extraordinaires. Ça séduit. Puis, ça n'a pas de goût. Mais c'est une séparation, et plus la technique avance, plus il y a une séparation entre le beau et le bien. On fait des choses brillantes qui ne sont plus bonnes. On fait des choses bonnes qui sont quelquefois moins brillantes. Dans l'écriture, la première fois où le mot beau apparaît, c'est à propos du fruit. Il est beau à voir. Qu'ils sont beaux tes pas, beaux d'abord par le but qu'ils se proposent. C'est encore Claudel, hein, dans le Cantique des Cantiques. Alors il y aurait toute une série de témoignages intéressants à voir. Le Corbusier, hein, c'est très curieux de voir ça. Le Corbusier, lui aussi, tend à identifier le beau et le bien. À certains moments, hein, je veux conserver si intacte cette liberté qu'au moment où les chiffres d'or et les tracés me proposeront parfois une solution parfaitement orthodoxe, je riposterai. C'est peut-être exact, mais ce n'est pas beau. Concluant sans retour, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça. Je ne le sens pas avec mon flair, avec mon goût, avec toutes les intuitions qui sont en moi suffisamment présentes pour m'ordonner de déclarer « je n'en veux pas ». Oui. Alors, la beauté n'est pas quelque chose d'exact, c'est quelque chose qui me plaît, et c'est quelque chose même qui regarde ma volonté. Je n'en veux pas. Comme lorsqu'il s'agit du mal, je n'en veux pas. Quelque chose qui est purement rigoureux. Alors, d'autres considéreront la beauté et la vérité comme identiques. Ça, c'est encore une chose très curieuse. Rodin précise que la beauté dans l'art, c'est la vérité intense, qui n'est autre que le caractère. Oui. Alors, la vérité, c'est le caractère. Je prends cette affirmation, ça. C'est qu'en effet, dans l'art, est beau uniquement ce qui a du caractère. Le caractère, c'est la vérité intense d'un spectacle naturel, beau ou laid. Et même, c'est ce qu'on pourrait appeler une vérité double, car c'est celle du dedans traduite par celle du dehors. C'est l'âme, le sentiment, l'idée qu'expriment les traits d'un visage, les gestes et les actions d'un être humain, les tons d'un ciel, la ligne d'un horizon. Comme c'est uniquement la puissance du caractère qui fait la beauté de l'art, il arrive souvent que plus un être est laid dans la nature, plus il est beau dans l'art. Voilà ce qu'il veut dire. Rodin affirme très fort cela. Vous voyez aussi affirmer la beauté liée à la forme, à l'ordre, à la proportion. Les belles œuvres, dit Valérie, sont filles de leur forme, qui naît avant elles. Donc la beauté et la forme, c'est évidemment très 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 proche. La beauté est liée à la forme, à l'ordre et à la proportion. Alors, c'est Le Corbusier qui dit ceci, l'architecte, par l'ordonnance des formes, réalise un ordre qui est une pure création de son esprit. Par les formes, il affecte intensément nos sens, provoquant des émotions plastiques. Par des rapports qu'il crée, il éveille en nous des résonances profondes. Il nous donne la mesure d'un ordre qu'on sent en accord avec celui du monde. Il détermine des mouvements divers de notre esprit et de notre cœur. C'est alors que nous ressentons la beauté. Alors il y a le lien également avec la proportion. La beauté, il y en a toujours lorsqu'il en existe l'intention et les moyens qui sont la proportion. Le cœur ne sera touché que si la raison est satisfaite, et celle-ci peut l'être quand les choses sont calculées, donc proportionnées. Ce qui distingue un beau visage, c'est la qualité des traits et une valeur toute particulière des rapports qui les unissent. Le type du visage appartient à tout individu, nez, bouche, front, etc., ainsi qu'une proportion moyenne entre ces éléments. On dit qu'un visage est beau lorsque la précision du modelage et la disposition des traits révèlent des proportions qu'on sent harmonieuses, parce qu'elles provoquent au fond de nous, par-delà nos sens, une résonance, une sorte de table d'harmonie qui se met à vibrer. Trace d'absolu indéfinissable préexistant au fond de notre être. Il y a une espèce de chose préétablie entre la proportion de ce que nous voyons et nous-mêmes. Et c'est assez vrai, il y a une espèce de quelque chose qui nous fait vibrer. Le beau implique une adaptation parfaite. Le beau surprend, non par manque d'adaptation préparée, non par le seul choc, mais au contraire, par une telle adaptation que nous ne puissions trouver par nous-mêmes de quoi en faire ou en concevoir une aussi parfaite. Et ceci, c'est Valéry qui dit ça, n'est-ce pas ? Le Corbusier affirme que la beauté est de pure création humaine. C'est une harmonie supérieure. L'harmonie est un état de concordance avec les normes de notre univers. La beauté domine. Elle est de pure création humaine. Elle est le superflu nécessaire seulement à ceux qui ont une âme élevée. La noblesse de la beauté, c'est quelque chose... C'est assez nietzschéen, hein, du reste. Hein. Vous voyez bien, il y a quelque chose de nietzschéen. C'est le surhomme. Le surhomme est fait pour la beauté et il la crée. C'est toute cette notion qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes, que la beauté comme telle, c'est une œuvre de l'homme. Seule la création donne la beauté. Dans la nature, tout est imparfait. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. C'est une conception que vous retrouvez chez Le Corbusier, que vous trouvez assez chez Valéry, que vous retrouvez chez Nietzsche, que vous retrouvez chez Hegel. Parce que pour Hegel, seule la création artistique me permet de goûter la nature. Je ne peux goûter le chant du rossignol que si j'ai entendu un air de musique avant, que j'ai entendu du Beethoven. Autrement, je ne peux pas. Je ne peux pas goûter le chant du rossignol. Je ne peux goûter le coucher de soleil que si j'ai vu une œuvre d'art qui m'a explicité parfaitement. Vous voyez, alors, c'est l'homme qui réalise cela. Et ça, c'est très courant. Ça pose un problème. Est-ce que la nature est belle ? Est-ce que la physionomie d'un enfant est belle ? Est-ce que le visage d'un homme est beau ? Est-ce qu'il y a une nature qui est belle ? C'est difficile de le nier. Il faut être très pris par certaines idéologies pour dire que vraiment la nature n'est belle que grâce à l'œuvre d'art. Parce qu'on pourrait se dire, mais l'œuvre d'art, d'où elle a tiré son inspiration ? Alors c'est la fameuse adage d'Aristote qui revient tout le temps. Et ce serait très intéressant du reste de le voir, je n'ai pas pu faire toute la piste, mais ce serait très intéressant de voir ce fameux adage « l'art imite la nature hein. ». Mais il faut ajouter tout de suite « l'art imite la nature et la complète ». C'est ce que dit Aristote, hein. On l'a coupé avant, on a fait une fausse citation. C'est « l'art imite la nature et la complète ». Alors, si l'art complète la nature, le beau n'est parfait que dans l'homme. que dans l'artiste. C'est l'idée qui est belle. C'est l'inspiration qui est source de toute beauté. Et la nature n'est que à moitié belle, imparfaitement belle. Vous voyez tous les problèmes que ça pose, hein, tout de suite, dès qu'on est en face de ces affirmations qui sont très fortes. La beauté est l'édification d'un ordre intuitif, comme le dit Valéry. Une œuvre de musique absolument pure, une composition de Bach, par exemple, qui n'emprunte rien au sentiment, mais qui construit un sentiment sans modèle, et dont toute la beauté consiste dans ses combinaisons, dans l'édification d'un ordre intuitif séparé, est une acquisition inestimable, une immense valeur tirée du néant. Hein, vous voyez, ça c'est du Valéry. Si, c'est un peu idéaliste, hein. Valéry est mathématicien, Valéry... Il dit des choses très intéressantes, du reste, au point de vue proprement de la beauté. Il y a des tas de choses qui sont intéressantes à voir. On peut dire aussi, c'est encore Valéry, il dit le beau est ce qui ennoblit notre vision. Vous voyez, c'est toujours intéressant de voir que le beau ennoblit. C'est quelque chose, une valeur très profonde. J'appelle un beau livre, déclare encore Valéry, celui qui me donne du langage une idée plus noble et plus profonde. Ainsi, la vue d'un beau corps ennoblit notre idée de la vie. Alors, par contre, d'autres diront, la beauté, c'est quelque chose de très énigmatique. Quelque chose de mystérieux. Vous voyez, c'est comme c'est curieux, parce que vous passez de la beauté, du moins vous passez ici, je me rassemble exprès, vous passez de la beauté proportion, calcul, ordre, forme, de la beauté énigme. La beauté possède aussi un caractère énigmatique et mystérieux qui suscite l'admiration. C'est Valéry. Dire qu'un objet est beau, c'est lui donner valeur d'énigme. Soyez obscur et vous serez beau. Hein, vous voyez bien, c'est grâce à l'obscurité, n'est-ce pas, on peut découvrir quelque chose qui est particulièrement beau, parce qu'on ne le voit pas. Alors c'est sûrement beau, n'est-ce pas, c'est énigmatique. Alors, je pousse jusqu'au bout, mais il y a quelque chose comme ça. Dire qu'un objet est beau, c'est dire, c'est lui donner une valeur d'énigme. N'oublions point qu'une très belle chose nous rend muets d'admiration. C'est très vrai. Le beau nous rend bouche bée. L'admiration. Quand on est devant quelque chose de très beau, c'est un choc qui nous saisit. On dira aussi que le beau est toujours un peu bizarre et étrange. Ah, ça, c'est Baudelaire. Le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie, naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est cette bizarrerie qui le fait particulièrement beau. C'est son immatriculation, sa caractéristique. Hein, quand vous voulez faire l'état du beau, vous mettez bizarre. Edgar Poe déclare, en citant Bacon, il n'est pas de beauté exquise sans une certaine étrangeté dans les proportions. Alors, c'est surtout Rilke qui a très fort ce sens-là. Du beau qui est quelque chose d'énigmatique, de bizarre, qui est un peu terrible. Rilke affirme que le beau est le premier degré du terrible, car le beau n'est rien que le premier degré du terrible. À peine le supportons-nous, et si nous l'admirons ainsi, c'est qu'il néglige avec dédain de nous détruire.
Ça, c'est le suprême. Hein. C'est assez, assez admirable. Ça. Il est tellement beau qu'il pourrait nous détruire, mais ne veut pas, nous méprise. Hein. Alors il passe son chemin comme ça. Le beau n'est rien d'autre que le premier degré du terrible. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que ça montre très bien, je prends exprès, hein, tous ces flashs différents. Aucun n'étreint le beau. Vous voyez, le pauvre philosophe, quand il est devant ça, hein, il doit se faire attention à ce que les artistes disent quand même. Hein. Ils ne sont pas des imbéciles, tous ces gens-là. Ils ont senti quelque chose, ils ont senti ce que c'était que la beauté. Ils ont fait des œuvres belles. Et quand ils expriment la beauté, le beau n'est rien d'autre que le premier degré du terrible. À peine le supportons-nous. Et si nous l'admirons ainsi, c'est qu'il néglige avec dédain de nous détruire. Baudelaire ira jusqu'à dire que la beauté est un monstre effrayant. Ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Il dira également qu'un des éléments du beau, c'est le malheur, et que la beauté virile par excellence, c'est celle de Satan. Satan peut apparaître bon et séduisant. Il peut apparaître hideux, mais il peut apparaître beau. J'ai trouvé la définition du beau, c'est Baudelaire, hein, de mon beau. L'un des caractères de beauté les plus intéressants, le mystère. Et enfin, pour que j'aie le courage d'avouer jusqu'à quel point je me sens moderne en esthétique, le malheur. C'est excellent, ça. Mais c'est le mystère, mais le mystère, c'est pas moderne. Hein. Donc, ce qui est moderne en esthétique, c'est de dire que le beau, c'est le malheur. Oui, c'est la négativité, vous voyez, qui caractérise la modernité, le primat de la négativité, vous le retrouvez ici, vous voyez. C'est très intéressant de retrouver ça à l'intérieur même de l'esthétique et à l'intérieur même du beau. Et Baudelaire sent ça. C'est le caractéristique de la modernité, c'est le primat de la négation. Je ne prétends pas que la joie ne puisse pas s'associer avec la beauté. Mais je dis que la joie en est un des ornements les plus vulgaires, pauvre joie, tandis que la mélancolie en est, pour ainsi dire, l'illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère, mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé, un type de beauté où il n'y ait du malheur. L'angoisse en métaphysique, le malheur en esthétique. Maintenez en vous du malheur et vous arriverez à découvrir le beau. Hein, vous voyez, dans prophète du malheur, prophète du beau. Maintenez en vous l'angoisse et vous découvrirez l'être. Moi, quand j'ai de l'angoisse, je n'ai plus rien à saisir. Et quand je suis dans le malheur, je ne vois plus rien de beau. Mais ils ont des cerveaux ensorcelés, hein, c'est bien dit. Appuyé, d'autres diraient, obsédé par ces idées, on conçoit qu'il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de beauté virile est Satan. Alors dans l'hymne à la beauté, on vous sait bien, Baudelaire semble ne pas savoir si la beauté est divine ou démoniaque. C'est assez beau, c'est assez fort. Hein. Parce que d'une certaine manière, la beauté fait le lien entre ce qu'il y a de mauvais et ce qu'il y a de bon. La seule ligne frontière, vous voyez, c'est entre Satan et Dieu. C'est extraordinaire. Et ça, il a saisi quelque chose de très fort. Parce que le beau est au-delà du bien et du mal. Ce que Nietzsche veut. C'est au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal se séparent, tandis que le beau peut se trouver dans le mal, peut se trouver dans le bien. Donc c'est un au-delà. Alors comprenez bien, hein, l'au-delà par en dessous, comme les petits lapins qui passent en dessous du grillage, hein, ou bien au-dessus, comme les oiseaux qui vont au-dessus. Il y a un en deçà et un au-dessus, quand c'est au-delà. Alors, on peut le comprendre de deux manières. Hein. Au-delà du bien et du mal. Alors, au-delà du bien et du mal, formellement, ontologiquement, viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô beauté ? Ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime. Et l'on peut pour cela te comparer au vin. La vie aux amateurs, vous voyez. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe aux beautés, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'une infinie, d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu, de Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends fait aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Ça enivre. Ça vous met au-dessus. Il y a un peu de ça dans Camus. Hein. La beauté dans Camus, c'est la seule voie de salut. Le monde est trop mauvais pour dire que le salut, c'est le bien. Il faut donc trouver quelque chose qui unisse le bien et le mal, et c'est le beau. Pour Camus, la beauté de la nature, et même toute beauté, implique quelque chose d'inhumain. Voici l'étrangeté. C'est dans le mythe de Sisyphe. Voici l'étrangeté. S'apercevoir avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain. Et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus loin qu'un paradis perdu. La beauté est liée au tragique de la vie. Toute la tragédie de la vie est qu'elle peut être bouleversante et magnifique. Sans la beauté, l'amour ou le danger, il serait presque facile de vivre. Car la beauté est liée radicalement au refus d'espérer qui exalte l'homme. Mais on retrouve le désespoir, l'angoisse, le malheur qui est source de beauté. Je crois que c'est très important pour comprendre tout l'art moderne, du moins toute une partie de l'art moderne. C'est pourquoi la beauté est liée à la tristesse. Mais la tristesse, dans ce pays, la Toscane, n'est jamais qu'un commentaire de la beauté. Et c'est pourquoi, surtout, elle atteint son sommet dans la révolte de l'homme affronté à une réalité qui le dépasse. Cette révolte donne son prix à la vie. Pour un homme sans œillères, il n'est pas de plus beau spectacle que celui de l'intelligence aux prises avec une réalité qui le dépasse. Le spectacle de l'orgueil humain est inégal. Alors, vous voyez, comme c'est difficile de préciser ce que c'est que la beauté. Alors, je termine par ce passage de Valéry. On comprend comment Valéry, en artiste critique, affirme alors que la beauté est ineffable, inexprimable. Le beau implique des effets d'indicibilité, d'indescribilité, d'ineffabilité. Et ce terme lui-même ne dit rien. Il n'y a pas de définition, car il n'y a pas de vraie définition que par construction. Or, si l'on veut produire un tel effet au moyen de ce qui est, de ce qui dit du langage, si l'on ressent causé par le langage un tel effet, il faut que le langage s'emploie à produire ce qui rend muet, exprime un mutisme. Beauté signifie inexprimabilité. Donc, la définition de ce terme ne pourrait être que la description et les conditions de production de l'état de ne pouvoir exprimer, dans tel cas particulier et de tel genre. C'est très juste, hein. La beauté est inexprimable, elle est ineffable, elle est au-delà de toute définition. Ça, Baudelaire, Valérie a tout à fait raison. C'est très juste. On est aux frontières de quelque chose qui peut se dire, mais ça ne se dit pas, ça ne peut pas se dire. Alors, il y aurait quelque chose de très intéressant à voir aussi. Nous n'allons pas le voir. C'est de voir comment les philosophes ont défini la beauté. Alors, vous trouvez là aussi, je vais simplement donner toute une série de fiches, si vous voulez, qui seraient très intéressantes. Quand vous faites l'histoire de la philosophie, hein, et que vous lisez tous les philosophes, relevez ce qu'ils disent du beau, c'est très significatif. Il y a des philosophes qui n'en parlent pas. Premier tiroir, les philosophes qui ne parlent pas du beau. C'est assez significatif, hein. Parce que ne pas parler du beau et prétendre être philosophe, c'est un peu ennuyeux. Parce que le beau, quand même, fait partie de notre vie humaine. Alors, ne pas parler du beau, c'est ennuyeux. Alors, vous voyez bien, premièrement, le beau et le bien, ou du moins un élément essentiel du bien. Là, vous pensez tout de suite à Platon. Platon, c'est le philosophe qui identifie d'une certaine manière beau et beauté. C'est vrai. Il identifie tout en montrant que ce n'est pas la même chose. Le beau et le bien se confondent en Dieu. Se confondent, s'identifient en Dieu, on pourrait dire. Ça, c'est les noms divins de Denis. Dans les noms divins, il y a quelque chose de très très beau à voir. C'est le parallélisme que fait Denis entre la bonté et la beauté. N'oubliez pas que saint Thomas l'a commenté. Hein. Et que saint Thomas, en commentant ça, montre les liens qui existent entre beau et bien. C'est quand même quelque chose de très très grand. Mais c'est en Dieu. C'est bien évident qu'en Dieu, Dieu est beau. Et Dieu est bon. Et beauté et bonté s'identifient en Dieu. Je ne peux pas dire qu'ils s'identifient dans l'homme. Je ne peux pas dire qu'il s'identifie dans la nature. Le beau n'est ni l'un ni le bien, mais il tend vers l'unité. Il est l'éclat et le rayonnement du bien et de la vie. Ça, c'est Plotin. Plotin est un des grands philosophes de la beauté. C'est peut-être le philosophe qui a le mieux parlé de la beauté. Ça, je crois qu'il faut reconnaître ça, Plotin. Aristote n'en a pas beaucoup parlé. Platon en a parlé beaucoup, mais j'aime mieux ce que dit Plotin. C'est plus vrai. Plotin considère que la beauté est juste après l'hypostase de la bonté. La beauté, c'est l'éclat, le rayonnement du bien, mais ce n'est pas le bien. C'est le rayonnement de la vie. La beauté, c'est la forme qui émerge de la matière. La beauté, c'est l'éternité. Parce que c'est ce qui est au-delà du devenir. Et c'est pour ça que pour Plotin, la beauté est au niveau de l'intelligibilité de l'être.
Voici ce passage dans l'Énéade 5. Ce qui est au-delà de la beauté, nous l'appelons la nature du bien. Et le beau est placé au-devant d'elle. Ainsi, dans une formule d'ensemble, on dira que le premier principe est le beau. Mais si l'on veut diviser les intelligibles, il faudra distinguer le beau, qui est le lieu des idées, du bien, qui est au-delà du beau, et qui en est la source et le principe. Sinon, on commencerait par faire du bien et du beau un seul et même principe. En tout cas, le beau est dans l'intelligible. Ça, c'est l'intuition de Platon. Le beau est dans l'intelligible. Et c'est pour ça qu'il est au-delà de la matière. Quand la forme est enfouie par la matière, elle devient monstrueuse. La matière est cause errante, elle est cause d'indétermination, elle est cause de laideur. Parce qu'elle est la cause errante. Et quand la forme est victorieuse de la matière, alors elle est belle. Et c'est le propre de la beauté, c'est de dépasser cela. C'est la même chose qui primitivement est laide et mauvaise. C'est encore Plotin. Mais est-ce la même chose qui est bonne et belle, ou qui est le bien et la beauté? Il faut donc rechercher par des moyens analogues si le beau et le bien, le laid et le mal s'identifient. Il faut poser d'abord que la beauté est aussi le bien. De ce bien, l'intelligence tire immédiatement sa beauté. Et de ce bien, l'intelligence tire immédiatement sa beauté. Et l'âme est belle par l'intelligence. Les autres beautés, celles des actions et des occupations, viennent de ce que l'âme y imprime sa forme. C'est pourquoi la vertu est bien la beauté de l'âme. Très belle manière de regarder le point de vue de la beauté. Donc Plotin est sûrement un des grands, par rapport à, des grands philosophes sur le beau. Le beau est l'ordre, l'harmonie, l'un dans la diversité. Alors ça, c'est les pythagoriciens. Et c'est aussi Aristote. Ce passage très connu qu'il faut bien comprendre de la métaphysique, il ne faut jamais l'oublier, je vous le lis pour que vous l'ayez. C'est dans le livre Mu. Mu, chapitre 3, donc le livre M, chapitre 3. Maintenant, le bien et le beau diffèrent. Le premier est toujours dans l'action. Le beau se trouve aussi dans les êtres immobiles. Les philosophes qui assurent que les sciences mathématiques ne traitent ni du beau ni du bien sont donc dans l'erreur. Le beau est au contraire l'objet principal du raisonnement de ces sciences et de leurs démonstrations. Ce n'est pas une raison parce qu'elles ne le nomment pas pour dire qu'elles n'en parlent pas. Car elles en montrent les effets et les rapports. Les formes les plus hautes du beau sont l'ordre, la symétrie, le défini. Et c'est là surtout ce que font apparaître les sciences mathématiques. Et puisque ces formes, je veux dire l'ordre et le défini, sont manifestement cause d'une multitude d'effets, il est clair que les mathématiciens doivent considérer comme cause, d'une certaine manière, la cause dont nous parlons, le beau en un mot. Mais c'est là un sujet que nous traiterons ailleurs plus à fond. Et ça a été perdu dans les oubliettes, hein, c'est bien dommage. Traiter ça à fond, les rapports entre le beau et le point de vue des mathématiques. Aristote en parle de temps en temps du beau, mais jamais d'une façon, sauf peut-être dans la poétique, mais au fond, c'est très rare qu'il en parle directement. Il affirme, en parlant de la tragédie et de son action, le beau est dans la grandeur et dans l'ordre. Ça, c'est une notion très aristotélicienne. Que pour le beau, il faut une certaine grandeur. C'est pourquoi un être vivant ne saurait être beau s'il est extrêmement petit.
Mais il sauve les moyens, il est extrêmement petit. Car la contemplation n'est pas distincte quand la durée en est presque imperceptible. Ni s'il est démesurément grand, car alors la contemplation ne devient plus simultanée. L'unité et le tout de la contemplation échappent au spectateur, comme s'il y avait un être vivant de 10 000 stades. Oui, la fourmi aux 1000 pieds. Elle n'est pas belle parce qu'elle est à 10 000 stades. On voit très bien, c'est la fameuse chose qu'on a repris, l'unité. L'unité d'action. L'unité d'action, vous voyez comment l'apprend Aristote, hein. Il apprend pour maintenir l'unité de la contemplation. Si vous voyez une action trop diverse, qui se multiplie de trop, il n'y a plus d'unité. Et donc il ne peut plus y avoir cette contemplation du beau. C'est à cause de ça qu'il maintient l'unité. Bon, la fois prochaine, puisque ce sera, on essaiera à partir de cette très grande diversité, mais je voulais vous la donner, hein, cette très grande diversité, essayer de voir ce que nous pouvons, au point de vue philosophique, saisir comme la notion du beau. Qu'est-ce que c'est que le beau? Pas de définition, mais la signification du beau. Qu'est-ce que c'est que le beau? Et pouvons-nous arriver à préciser diverses modalités du beau?
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Saint